Monseigneur, vous êtes métropolite de Tallinn et de toute l'Estonie. L'Église orthodoxe connaît une situation particulière dans ce pays puisqu'il existe deux Églises orthodoxes d'Estonie. Pour bien comprendre cette question, il est utile de rappeler l'histoire de l'orthodoxie en Estonie, puis de votre Église.
Je dirais d'abord qu'il y a une seule orthodoxie en Estonie, qui s'est retrouvée divisée en deux parties, et j'ajouterai malgré la conscience, aujourd'hui encore, et le désir de l'ensemble des Estoniens orthodoxes, qu'ils soient russes ou estoniens en Estonie. Il est incontestable que l'orthodoxie est venue en Estonie après que l'Estonie eût été assimilée ou intégrée dans la Russie sous l'époque des tsars, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Jusque-là, il y a eu diverses tentatives. À partir déjà du XIIe siècle, nous avons des témoignages, et notamment par Kiev. Alors, je ne reviendrai pas sur toute l'histoire de Kiev à cette époque. Nous connaissons très bien la situation, ce qu'elle était par rapport à Constantinople. Il y a eu des tentatives, effectivement, mais elles avaient toutes échoué. Là, je dirais, où les choses ont plus ou moins bien tourné, c'est parce qu'il y a eu une présence russe permanente par le fait que les pays baltes aient été intégrés dans la réalité russe, tsariste, et parce qu'à l'époque, spécialement au milieu du XIXe siècle, à la suite d'une révolution agricole, agraire, dans le pays, il a été décidé d'envoyer dans les campagnes des prêtres russes, dans le but, bien sûr, d'amener la foi, mais aussi de russifier le pays. À ce moment-là, les Estoniens qui devenaient, adhéraient à la foi orthodoxe, à ce moment-là, ils devenaient propriétaires de terres, et était libéré de l'esclavage du servage. Et c'est ce qui a fait que, au XIXe siècle, à côté d'un groupe de commerçants et d'intellectuels russes qui allaient et venaient en Estonie, c'est ce qui a fait que, surtout dans les campagnes, s'est développée une vie orthodoxe. Cela jusqu'en 1918. On considère qu'il y avait environ 60 000 orthodoxes en Estonie, russes et aussi estoniens, surtout des campagnes. Je dis toujours à tout le monde que notre église est une église qui est restée une église agricole jusqu'à aujourd'hui. Dans les grands centres comme Tallinn ou ailleurs, nous ne sommes pas énormément représentés, mais si vous allez dans les campagnes estoniennes, et plus vous vous orientez vers la partie ouest, et sud-est du pays, vous verrez que c'est vraiment l'orthodoxie qui prend le dessus peu à peu par rapport aux autres confessions. Et parce que notre Église reste une Église agricole. Et donc, en 1918, à la suite d'un long combat d'affranchissement du pays, l'Église orthodoxe d'Estonie finit par collaborer à tout ce mouvement de libération identitaire de l'Estonie. Et ce qui fait qu'il y a une prise de conscience estonienne et orthodoxe. Et nous assistons au phénomène suivant, c'est que jusqu'en 1918, nous avons à peu près 60 000 orthodoxes, dont, disons, 20 à 25 000 sont des Russes qui font le va-et-vient dans le pays et avec la Russie, ou avec Riga, parce que Riga reste quand même un centre très important dans l'histoire générale de la région. Parce qu'il y avait un axe Saint-Pétersbourg-Riga de tout temps. Mais de 1920 à 1940, on passe de 60 000 à 200 000 orthodoxes. Et là, nous voyons qu'il y a tout un mouvement de prise de conscience de la nationalité et de l'identité estonienne. On traduit les textes en estonien. Et en 1940, nous avons à peu près 200 000 orthodoxes. Qui, eux, sont pour 70% des autochtones et pour 30% des Russes qui continuent, soit qui sont nés sur place, soit qui continuent à faire le va-et-vient. Vous voyez donc que cela correspond vraiment à un travail qui a conduit cette église de missionnarisée qu'elle était, de devenir une église locale, et en peu de temps, quand même à travers l'histoire. Et donc en 1940, on peut dire qu'il n'y a plus qu'une seule église orthodoxe en Estonie. D'ailleurs, cela est attesté par les archives nationales. Nous avons 27 000 documents entre 1923 et 1940 qui sont consignés par les archives nationales. Il n'y a pas un seul document qui parle d'une deuxième église. Toutes les paroisses, 154 à l'époque, toutes les paroisses en 1940 sont intégrées dans la réalité de l'église estonienne. C'est par la suite, malheureusement, avec alors d'abord le fameux traité secret, n'est-ce pas, Molotov-Ribbentrop, etc., le partage des pays baltes entre Staline. C'est à ce moment-là qu'ont commencé les misères, je dirais, de notre église. En 1945, alors, notre église est dissoute de façon tout à fait totalitaire par Staline et par le patriarcat de Moscou qui a participé à ce travail, et on instaure à ce moment-là un évêché. Cet évêché va se maintenir jusqu'en 1991. En 1991, le pays retrouve son indépendance. Entre-temps, le traité de Tartu du 20 février 1920, je crois que c'est ça, je ne me souviens pas exactement des dates, mais c'est en février 1920, reconnaît l'indépendance de l'Estonie par rapport à la Russie. C'est un acte qui était reconnu par la Russie, tout aussi paradoxal qu'il puisse paraître. L'armée russe a été défaite par l'armée estonienne en 1920 à Tartu. Et après ça, il y a eu donc le décret, il y a eu un traité où la Russie reconnaissait définitivement l'indépendance de l'Estonie et en même temps qui n'avait plus aucune revendication ni territoriale, ni de quelque bien que ce soit en Estonie. C'est comme ça d'ailleurs que le patriarche Tichon avait promis l'autonomie à l'église estonienne, et le patriarcat œcuménique a confirmé en 23, parce que conformément au processus d'autonomie, il faut deux choses. Il faut que le pays dans lequel vous aurez une église autonome ou une église autocéphale soit un pays qui est reconnu comme tel dans ses frontières par la communauté internationale. Et deuxièmement, il faut que tout le peuple demande cela de façon unitaire. Or, il ne faut pas oublier que les États-Unis, en 1920, n'avaient pas reconnu l'indépendance de l'Estonie. C'est venu plus tard. Et donc, le patriarcat œcuménique, quand toutes les processus ont été établis, c'est-à-dire que le peuple l'a demandé, que le gouvernement estonien a demandé, et que l'Estonie a été reconnue sous le plan international comme pays indépendant, ce n'est qu'après cela que le patriarcat a confirmé cette autonomie, qui a été évidemment dissoute en 1945. En 1991, avec le retour de l'indépendance, les Estoniens ont revendiqué la réhabilitation de leur autonomie. Il faut reconnaître aussi un autre fait, qu'en 1978, sous l'actuel patriarche de Moscou, Mgr Alexis, qui était à l'époque métropolite d'Estonie, le patriarcat avait accepté, étant donné la situation, que l'Église de Russie prenne en charge pastoralement les Estoniens d'Estonie, mais n'avait jamais dissous cette autonomie. Il y a aussi un autre fait, c'est qu'en 1944, lorsque l'Estonie a senti que les choses tournaient mal, on a conseillé, et c'est ce qui s'est passé, Mgr Alexandre, mon prédécesseur, avec 8000 fidèles et 22 prêtres, ont quitté l'Estonie, se sont installés à Stockholm et ont constitué un synode en exil. Or, ce synode a été maintenu jusqu'en 1991, et lorsque, évidemment, le pays est devenu indépendant, la continuité de l'Église était assurée à l'extérieur et à l'intérieur. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le rétablissement de l'autonomie de notre Église n'a pas été un rétablissement factice. Souvent, on veut dire que c'était une affaire d'influence ou de politique entre deux patriarcats qui se mesurent, n'est-ce pas, c'est-à-dire Constantinople et Moscou, qui se mesurent l'un contre l'autre. Non, je pense qu'il faut être beaucoup plus serein et beaucoup plus honnête. En Estonie, il y avait des fidèles qui n'ont jamais accepté de se soumettre à Moscou. En exil, il y avait une continuité d'église qui a continué à assurer les structures vitales de l'église. Ces gens qui vivaient à l'intérieur de l'Estonie ont clairement dit en 1991 que si on ne redonnait pas le droit de retrouver leur église, ils préféraient se saborder ou passer dans d'autres confessions, notamment anglicanes, plutôt que de continuer à se soumettre au patriarcat de Moscou. Que devait faire le patriarcat œcuménique? Le patriarcat œcuménique avait une responsabilité dans ce domaine. Est-ce qu'il pouvait laisser des gens se saborder tout simplement parce qu'il y avait un caprice ou un fait d'histoire douloureux et tragique qui était la dissolution de 1945? Cela, personne n'a cherché à le comprendre à l'époque et évidemment, on a crié haro sur le baudet, on s'en est pris au patriarcat œcuménique qui allait chasser sous les terres du patriarcat de Moscou, ce qui n'était pas du tout le cas. Le cas, c'était qu'un pays avait retrouvé son indépendance, sa liberté, et qu'à l'intérieur du pays, il y avait une structure existante de gens qui continuaient à revendiquer leur droit à l'existence, qui n'avaient jamais perdu ce droit à l'existence du fait qu'ils n'avaient même pas quitté le pays. Et on s'est retrouvé avec à peu près 18 000 personnes. Les statistiques que je viens de recevoir du ministère de l'Intérieur disent. Le 1er janvier de l'an 2000, il y avait 18 000 orthodoxes estoniens en Estonie. En 2003, ils sont devenus 20 000. Et aujourd'hui, en 2006, ils sont devenus 25 000. Ça, c'est les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Donc, en plus, il y a un accroissement important du nombre de fidèles, ce qui montre que ce qui correspond bien à nos papiers, à nos documents, nous avons à peu près, sur l'espace de 10 ans, de 96 à aujourd'hui, environ célébré 6 000 baptêmes et mariages. Donc, j'ai pas fini, excusez-moi. Donc, je veux dire par là que en 91, donc, on se trouve devant cette situation. Les pourparlers ont duré de 91 à 96 avec le patriarcat de Moscou. Je pense que le patriarcat de Moscou n'a pas compris la situation. Parce que si le patriarcat de Moscou avait à l'époque, c'est ce que disent les Estoniens aujourd'hui, si le patriarcat de Moscou avait à l'époque compris la revendication des Estoniens et avait pris la chose sereinement, nous n'aurions pas deux églises aujourd'hui. Et vraisemblablement, nous n'aurions pas eu le conflit entre Moscou et Constantinople. Mais en 96, le patriarcat de Constantinople ne pouvait plus fermer les yeux. Il y avait une réalité qui n'avait pas été assumée ni gérée convenablement par le patriarcat de Moscou. Donc, nous sommes trouvés aujourd'hui devant une situation lamentable et tragique qui est de dire. Provisoirement, puisque nous avons une église locale, provisoirement, acceptons, plutôt que d'avoir des conflits à n'en pas finir, une double réalité, acceptons que le patriarcat de Moscou, à côté de l'église locale, ait sa juridiction, mais c'est dans une vision provisoire, ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut quand même imaginer qu'un jour, nous retrouverons cette unité d'une église locale. Voilà un peu la situation telle que moi je la vis et telle que moi je l'ai trouvée. C'est terrible. Moi en Corse, je viens de lancer un nouvel appel. J'ai fait beaucoup d'efforts pour convaincre l'Église russe d'aller de l'avant, aussi bien auprès du patriarche Alexis que du métropolite Cornelius. Plusieurs fois, je suis intervenu. J'ai fait des propositions très précises pour que nous puissions vraiment nous réconcilier. J'ai fait des gestes. Je suis quand même celui qui, dès son intronisation, a demandé au gouvernement la reconnaissance officielle sur le plan juridique de l'Église de Moscou, conformément d'ailleurs aux décisions de Zurich 96. Je suis celui qui a cédé tous mes droits sous la cathédrale russe, occupée par les Russes aujourd'hui, ou utilisée, excusez-moi du mot occupée, mais utilisée par les Russes aujourd'hui. C'est moi qui ai fait les concessions. Parce que quand je suis arrivé à Tallinn, il y avait un procès pour que nous récupérions cette église. Et moi, je me suis opposé à ça, en disant que je suis contre cela, et je préfère retirer mon droit, parce que j'avais un droit, et j'ai demandé à la place une autre compensation que j'ai pu avoir, et ce n'est que maintenant que je vais avoir ma cathédrale. J'ai fait quelques gestes très importants dans ce sens-là. Je n'ai pas eu de répondant. Et là, de nouveau, je viens de lancer un appel en disant que j'espère que pour 2007, à l'occasion d'ailleurs de la Pâque commune, nous puissions quand même essayer d'imaginer qu'au moins nous pouvons rétablir notre relation communionnelle. Et par la suite, Dieu est grand et on verra bien.
Alors, vous avez dit qu'il y a environ 25 000 fidèles orthodoxes en
De
Espagne.
notre côté.
D'accord. Et de manière globale, combien y a-t-il à peu près de fidèles orthodoxes en Estonie et quel pourcentage par rapport à la
Alors,
population estonienne cela représente?
Les statistiques, évidemment, du ministère de l'Intérieur parlent des Estoniens orthodoxes. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi, à peu près, dans le sud en tout cas, nous avons à peu près 30% aussi de paroisses russes. Les Russes qui sont venus en 1940 se sont intégrés dans notre Église. Les Russes qui sont venus en 53, qu'on a amenés en 53, parce qu'il y a eu des échanges, des transferts de population, ceux-là sont restés et sont restés sous la frontière russe et sont restés très fidèlement et viscéralement attachés au patriarcat de Moscou. Nous avons donc 30% de nos paroisses qui sont russes et russophones, ce qui n'est pas le cas du côté russe d'ailleurs. De l'autre côté, ils n'ont pas
Et vous avez au
d'équivalent.
total combien de paroisses, monseigneur?
J'ai 61 paroisses actuellement, j'ai 35 prêtres et diacres actuellement, c'est-à-dire que en l'espace de 7 ans, nous avons presque doublé le chiffre de nos prêtres et diacres. Disons, les 35 prêtres, j'ai diacres, donc j'ai 5 prêtres et diacres qui sont russes, mais j'ai encore 4 ou 5 autres prêtres qui sont parfaitement bilingues, russophones et
Ah mais alors,
esténophones.
quel est
Alors,
le
le
pourcentage?
pourcentage. Alors maintenant, venons-en aux choses.
Oui.
En Estonie, le pourcentage de tous les chrétiens baptisés, de tous les baptisés, de toutes les confessions, nous sommes 18% de la population. C'est-à-dire que sur 1 400 000, nous représentons à peu près 400 000 fidèles baptisés de toutes les dénominations. Alors, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur montrent que jusqu'à présent, on disait que la religion luthérienne était la première. Eh bien, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur nous disent, pour la première fois, nous sommes 54% des baptisés orthodoxes et 38% ou 31% sont luthériens. Aujourd'hui, l'Église orthodoxe, les deux groupes ensemble, nous sommes devenus la première religion en Estonie. Mais par rapport à la population, nous ne sommes pas évidemment très représentatifs, puisque nous représentons à peu près actuellement le 10% de la population russe orthodoxe et estonienne ensemble. Alors moi, je pense, s'il est qu'actuellement les chiffres du ministère de l'Intérieur sont ce qu'ils sont, d'après mes estimations, nous devons être autour de 30 000, nous, et les Russes doivent varier entre 175 000 et 200 000, disons, grosso modo. Mais il ne faut pas oublier que dernièrement, nous avons une émigration importante des pays de l'Est à l'intérieur de la communauté russe. Voilà un peu la situation. Aujourd'hui, en Estonie, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Vous
Monseigneur,
étiez premier à l'entendre, d'ailleurs. Je suis heureux de vous le dire à vous, les premiers, parce que jusqu'à présent, on a toujours dit que les Estoniens sont luthériens et les autres. Et jusqu'à présent, nos frères luthériens avaient savamment joué en disant il y a deux églises orthodoxes, comme si nous étions deux entités opposées, pour dire ils sont minoritaires. Non, ensemble, nous sommes majoritaires aujourd'hui.
merci de nous le dire et nous en réjouissons de ce
Oui,
fait.
mais vous imaginez la responsabilité que ça représente pour Ponsio Colli et pour moi-même, et la douleur qui est la mienne de savoir qu'aujourd'hui, nous devrions être capables, c'est ce que j'avais dit aussi au patriarche Alexis, nous devrions être capables de donner un témoignage commun de l'orthodoxie, et nous ne pouvons pas le faire. Et nous ne pouvons pas le faire à cause justement de cette situation.
Monseigneur, depuis votre arrivée à la tête de la métropole, beaucoup de réalisations ont été faites. Pouvez-vous nous en parler?
Écoutez, quand je suis arrivé, beaucoup, je ne sais pas. On a tendance toujours à gonfler les chiffres, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si on peut parler de beaucoup. En tout cas, je veux rester modeste. Je dirais ceci, comme je suis arrivé en Estonie, j'ai pris l'engagement sur trois choses. Réactualiser les statuts de l'Église, qui étaient complètement dépassés, parce que au moment où les statuts ont été déposés, il faut savoir qu'il n'y a pas d'église nationale en Estonie, mais il y a deux églises dites historiques. C'est l'église luthérienne et la nôtre. Historiques parce qu'elles ont collaboré, contribué, n'est-ce pas, à cette identité estonienne qui était celle de la Première République entre 1920 et 1940. Aujourd'hui, il y a des études historiques qui sont faites en Estonie, et surprenantes parce qu'il y a à peu près plus, il y a un chiffre autour de 100 prêtres et intellectuels orthodoxes estoniens qui ont contribué à la prise de conscience de l'estonitude. Donc c'est pas peu en l'espace de 20 ans. Alors nous sommes deux églises historiques et au même moment, en 1935, nous avons tous les deux déposé des statuts de reconnaissance. C'était la première fois que l'État reconnaissait officiellement, statutairement, deux églises. Nous avons vécu avec ces statuts jusqu'en 1999. Un de mes soucis était évidemment de réactualiser ces statuts, qui étaient complètement dépassés par la situation et qui, sur plusieurs points, même étaient, je dirais, opposés à la théologie, à l'ecclésiologie orthodoxe. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il y avait une semi-dictature en Estonie. Le président était orthodoxe. Son frère était le président du conseil de l'église estonienne. Et cette église avait une connotation nationale très, très marquée. Alors, ces gens ont vécu avec ça jusqu'en 1999. Donc, moi, mon idée était de réactualiser les statuts de toute façon. Deuxièmement, nous avions acquis, comme on s'est arrivé en Estonie, nous étions en dessous de zéro sur le plan matériel. Toutes nos églises détruites, pratiquement il n'y avait que quelques églises encore qui pouvaient plus ou moins se maintenir convenables. Aucune structure économique. Vraiment, c'était en dessous de tout. Et d'ailleurs, je pense que nous avons vécu une épreuve terrible parce que, aujourd'hui je peux le dire, sans passion, mais avec, il faut quand même que je le dise, parce qu'il y a eu les pressions de l'Église russe contre nous, aucun pays orthodoxe de ceux qui aident, aucune instance œcuménique n'a voulu nous aider financièrement. Je pense que tout le monde espérait que nous allions mourir de notre propre mort, et comme ça tout le monde aurait eu sa conscience tranquille. On les aura donné la chance d'exister, ils n'ont pas pu le faire. C'était très dur. Ce n'est que maintenant que nous commençons vraiment à être autonomes, et je peux dire avec fierté que nous sommes partis de rien, de moins, et qu'aujourd'hui nous sommes la seule église peut-être de derrière le rideau de fer qui est complètement autonome économiquement. Nous n'avons besoin de personne, figurez-vous, aujourd'hui, pour vivre et pour faire notre travail. Et troisième problème que j'avais à résoudre, c'était de préparer mon successeur. Parce que moi, je suis là, j'ai été envoyé là pour préparer l'avenir de l'Église, pas pour aller mettre le grappin dessus, comme certains ont pu le penser, ou pour soi-disant, je le dis quand même, parce que, pas avec amertume, mais parce que je veux rétablir des vérités, ou soi-disant parce que mon ambition était telle que j'avais besoin d'une telle aura pour asseoir mon ambition. Vous savez, il fallait aller voir là-bas sur place qu'est-ce que c'était que d'être le métropolite d'une église complètement rentemplant plutôt que l'évêque auxiliaire à Nice. Enfin, c'est une autre affaire. Mais c'est une petite mise au point que j'aime bien faire. Donc, il a fallu travailler là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous en sommes là. C'est-à-dire que mon intention était de mettre de bonnes fondations. Parce que j'estime qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas de fondation, la maison ne tient pas, c'est tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Au bout de à peu près 7 ans révolus de travail, bientôt la 8e année commence, à partir de 1999, d'abord nous avons pu restaurer tous nos centres vitaux. 39 églises restaurées. Tous les presbytères restaurés. Aujourd'hui, nos prêtres logent et vivent dans des conditions tout à fait convenables et n'ont rien à envier à qui que ce soit. Nous avons construit le centre. Nous sommes partis de rien. Quand je suis arrivé à Tallinn, il n'y avait même pas une chambre pour m'accueillir. Aujourd'hui, nous avons un centre et qui fonctionne. Ensuite, nous avons systématiquement rétabli toutes les structures de fonctionnement de l'Église, c'est-à-dire les structures spirituelles, c'est-à-dire les éditions, la catéchèse, le capellanat aux armées et aux prisons, maintenant la diaconie, c'est-à-dire la charité, toute la structure de fonctionnement de l'Église. Aujourd'hui, chez nous, à Tallinn, 10 personnes travaillent en permanence au centre. Et le séminaire, parce que l'éducation est très importante. Et bien sûr, les ordinations des prêtres et des diacres, parce qu'il fallait renouveler aussi notre équipe et développer notre équipe. D'ailleurs, si nous avons actuellement une évolution favorable, c'est parce que nous avons de plus en plus de prêtres. Et chaque fois qu'on envoie un permanent quelque part, plutôt que de faire le postier dans plusieurs paroisses, tout de suite des baptêmes, tout de suite la paroisse revit, etc. Et puis, restructurer les assemblées générales, parce que moi j'insiste énormément, c'est toute l'Église qui doit participer et vivre. Et enfin, mettre en place une structure économique qui nous donne des garanties pour l'avenir. Parce que quand je suis arrivé, on vendait à tout vent pour essayer de tenir le coup, mais il n'y avait aucune stratégie d'avenir. Voilà un peu ce qui s'est passé sur l'espace de 8 ans. Aujourd'hui, donc, je peux dire que nous avons une Église qui fonctionne avec toutes les structures fondamentales qui permettent à une Église d'exister en tant que telle, surtout quand il s'agit d'une Église autonome.
Alors, pour l'avenir, quels sont les défis et quels sont les projets ?
Pour l'avenir, c'est d'abord sur le plan de l'éducation. C'est évident que nous avons hérité d'une situation terriblement difficile, avec beaucoup de problèmes, avec des jeunesses très perturbées, surtout les dernières que nous avons actuellement, la dernière génération qui est celle qui a servi, qui sont les derniers à avoir servi dans l'armée russe, c'est des gens très perturbés. En général, l'Église russe ne laissait pas les prêtres estoniens et les paroisses estoniennes se développer, à part une liturgie. Le culte était le rituel très respecté, mais rien à côté. Donc nous avons quand même un travail énorme à faire sur le plan de la culture, sur le plan de relever le niveau culturel et évidemment le niveau théologique. De ce point de vue-là, nous sommes en train de faire des efforts très importants et nous voulons qu'un jour, vraiment, nous ayons un séminaire qui puisse vraiment fonctionner à plein temps. Actuellement, notre séminaire sur l'espace de 4 ans est passé de 2 jours de cours par semaine par mois à une semaine complète par mois. Je disais tout à l'heure, n'est-ce pas, que nous avons actuellement 12 professeurs qui enseignent. Nous avons donc 30 étudiants de toute l'Estonie. Nous les accueillons, nous leur payons leurs frais de déplacement, nous leur payons leur séjour à Tallinn. Etc. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment un travail qui se fait pour essayer d'apporter une structure solide. Et maintenant, nous commençons sous des sessions d'examen. De plus, nous sommes tout doucement en train de préparer une chaire de théologie à l'Université de Tartu. Nous avons déjà un cours par le père Grégoire Papathomas. Et nous venons de conclure des accords avec l'Académie luthérienne réformée de Tartu. Bientôt, nos diplômes seront reconnus aussi par l'État. Donc, c'est voir qu'il y a tout un travail qui se fait. Parallèlement à ça, il y a la catéchèse. Nous avons une structure de catéchèse maintenant. Nous avons une équipe de 7 personnes. Ils ont été chargés sur un programme de 4 ans de préparer le nécessaire pour couvrir tous les âges, depuis 5 ans jusqu'au niveau estudiantin. On a commencé ce travail déjà depuis l'année passée, de façon plus systématique. Et nous avons les éditions où nous avons donc, comme je vous ai dit, nous avons un journal qui sort toutes les 6 semaines d'information générale et de catéchèse pour les fidèles. Et à côté de ça, une revue théologique maintenant, qui sort 2 fois par an et qui nous permet non seulement d'avoir pour la première fois des articles théologiques, des études théologiques de 40 pages à peu près. La revue fait à peu près 120 pages du format contact, vous voyez. Donc nous avons en général 2 grosses études théologiques Et maintenant, nous intégrons aussi des études de philo ou des textes ou des articles de philosophie, de culture générale, etc., ou de littérature, par des Estoniens qui ne sont pas orthodoxes, de manière à pouvoir aussi entrer dans un peu les différents milieux. Et surtout, nous tablons sur les auteurs qui, vous savez, comme dans tous les pays, il y a quelques personnes qui bloquent tous les médias et on n'entend qu'eux. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont intéressantes. Et là, notre petite revue pourra apporter, sera une porte ouverte à beaucoup d'autres personnes qui pensent, qui sont des penseurs, etc., et qui sont très appréciés dans le monde, dans la société estonienne. À côté de ça, évidemment, il y a le souci, surtout, de l'action auprès des prisonniers, auprès des armées. Notre plus grande paroisse, c'est l'armée. Il y a 10 000 militaires en Estonie, c'est un petit pays, mais l'aumônier militaire, il a la plus grande paroisse qu'on peut imaginer dans toute l'Estonie, parce qu'il a à sa disposition. Et nous avons des baptêmes en permanence dans l'armée. En moyenne, nous avons par an entre 15 et 20 baptêmes par an de soldats qui découvrent la foi à travers le travail que font nos aumôniers. De même, dans les prisons, de plus en plus, nous essayons d'être présents. Je déplore que nous ne soyons pas assez présents dans les hôpitaux, mais on ne peut pas faire face à tout. Donc, il y a cet aspect. Et puis, il y a maintenant aussi l'aspect des œuvres caritatives. Et là, nous avons fait une grande réflexion. Nous ne voulons pas faire du social pour le social. Nous pensons que Caritas, nous avons quand même... Caritas International ou d'autres actions chez nos frères réformés montrent qu'ils sont très performants sur le plan social et nous leur sommes très reconnaissants. Mais quelque part, je ne pense pas que ce soit la perspective de l'Église orthodoxe. Je pense que chez nous, l'œuvre caritative est liée à la vie liturgique, est liée au témoignage de la foi, et donc il y a quelque chose d'autre à faire. Nous n'avons pas, nous, les moyens énormes pour pouvoir nous disposer d'œuvres caritatives où nous pouvons gérer des hôpitaux, des centres, je ne sais pas. Par contre, nous orientons vers l'accompagnement. L'accompagnement spirituel des infirmières, par exemple, des gardiens de prison. Nous avons lancé un programme de réflexion sur la famille qui va durer pendant un an, où nous étudions tous les aspects de la famille. Et puis, avec le but d'arriver à avoir des accompagnements pour les familles. Donc nous avons pensé qu'actuellement, nous avons beaucoup plus à faire sur le plan spirituel à ce niveau-là que d'essayer de nous mettre en parallèle avec les actions caritatives de l'État, qui sont bonnes. Alors, par contre, nous sommes prêts à collaborer avec eux. Et de plus en plus, je pense que ces groupes caritatifs de plus en plus sont sujets à des lois tellement contraignantes et tellement précises qu'il nous faudrait un personnel qualifié énorme. Nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui, et tant pis, mais par contre nous pouvons faire cet accompagnement. Et pour cela, je crois que nous avons beaucoup à faire autre chose. On oublie très souvent, nous avons hérité de 150 immeubles de l'époque qui ont été nationalisés sous le régime communiste. Mais 150 immeubles qui sont tous en bois, la plupart non entretenus depuis 1945, avec des loyers imposés par la loi de 1947, qui font qu'on paye à peu près à Tallinn 15 couronnes par mètre carré et dans la province 5 couronnes, c'est-à-dire 1 euro c'est 15 couronnes, alors c'est 30 centimes par mètre carré. Vous pensez bien que tous ces immeubles sont inutilisables aujourd'hui. S'il fallait les restaurer, on n'aurait pas les moyens de le faire. Par contre, dans ces immeubles vivent des vieilles personnes. Or, j'ai toujours dit au gouvernement, il y a à peu près entre 700 et 1000 personnes qui sont dans cette situation. Si nous devions les exproprier, qu'est-ce qu'il adviendrait? Alors nous fermons les yeux et nous laissons ces gens continuer à rester dans leurs meubles qu'ils entretiennent d'une certaine manière, plus ou moins bien, mais ils continuent à avoir un toit. Et je dis que nous faisons quand même une action sociale, parce que nous aurions pu très bien exploiter cela autrement. Mais nous ne le faisons pas, parce qu'on serait obligé d'exproprier. Et exproprier, c'est-à-dire, c'est mettre des gens dans la rue. Et ça, nous sommes complètement opposés à ça. Par contre, nous avons créé alors aussi une sorte de structure de management qui, elle, gère des biens de l'Église. Et c'est parce que nous avons ces structures de management aujourd'hui qui est assumée par des spécialistes qui sont des orthodoxes, des jeunes orthodoxes, que nous pouvons vraiment aujourd'hui avoir cette base économique. Voilà un peu dans les réalisations. Un dernier point, si vous permettez. Notre Église n'a pas, ne reçoit pas de financement particulier de l'État. C'est séparation Église-État. Toutes les Églises, d'ailleurs, nous sommes à ce niveau-là. Eh bien, malgré ça, nous arrivons aujourd'hui, par nos propres moyens, à couvrir les salaires de nos prêtres à peu près à l'équivalent de ce qu'on paye aujourd'hui un fonctionnaire d'État. C'est pas énorme, mais c'est quand même représentatif de l'effort qui a été fait.
Et c'est un signe de votre action et que vous êtes bien implanté dans la société. Une autre question, Monseigneur. Quelles sont vos relations avec le diocèse qui se trouve sous la juridiction du Patriarcat de Moscou et comment vous voyez-vous l'évolution de ces relations?
Alors, nos relations, nulles. Parce que le Patriarcat de Moscou ne veut pas avoir de relations. Nous avons plusieurs fois tendu la main. Par exemple, aujourd'hui, il y a tout le problème de l'enseignement de la religion dans les écoles. C'est un problème qui... il faut savoir que c'est un problème très compliqué à résoudre. Il y a eu un référendum par la télévision. 70% des Estoniens sont contre l'enseignement du religieux dans les écoles. C'est vous dire la difficulté. On a proposé d'avoir une équipe de réflexion commune. Refus total. Chaque fois que nous tendons la main à l'Église russe, refus total. Et non seulement refus total, mais quand, par exemple, ils sont dans le monastère de Kouremé, quand nos fidèles vont avec leurs prêtres dans ce monastère en pèlerinage, les prêtres sont reçus comme laïcs, pas comme prêtres. Alors, tant que ça va durer, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est bloqué par ça. Et je crois que c'est très pénible à dire, mais c'est ça la vérité.
Sur votre site internet, vous avez mis en ligne des extraits d'un article d'un quotidien estonien paru en 2001,
oui,
qui commence par une citation de l'historien Erik Niles Cross.
Oui.
Et alors cette citation, notamment, dit ceci, « Ce conflit d'Église sera résolu », donc il s'agit du conflit effectivement entre l'Église estonienne qui est sous la juridiction du patriarcat œcuménique et celle qui est sous, oui, la juridiction du patriarcat de Moscou. Donc ce conflit d'Église sera résolu seulement lorsque l'Église de Moscou cessera d'être un instrument politique pour devenir une Église spirituelle. Mais n'y a-t-il pas là danger que votre Église, en devenant une Église nationale, ne devienne à son tour un instrument d'une certaine politique nationale et étatique?
D'abord, nous ne pourrons pas devenir une Église nationale parce que la constitution estonienne, l'article 40, dit clairement que aucune église ne peut jouer de ce statut en Estonie. Les luthériens ont essayé de le récupérer, ça n'a pas marché. Ça, c'est clair. Mon prédécesseur siégeait à l'Assemblée nationale. Moi, je ne siège pas à l'Assemblée nationale. Donc, je veux dire par là que déjà la constitution estonienne ne permet pas une telle perspective. Deuxièmement, il est vrai que le danger a existé d'avoir une église nationale chez nous. Il a été dépassé par le fait qu'ils ont eu un évêque qui est venu de l'étranger, qui n'était pas estonien. C'était moi. Le fait que ça a été la chance de l'église d'Estonie, que le primat de l'église rétablie n'avait aucune prétention nationale et ne pouvait pas le faire, puisque je n'étais même pas un national. Donc, à l'époque, maintenant, on a fait de moi un Estonien, c'est pas pour ça que ça a changé quoi que ce soit. Donc, je veux dire par là que le risque a été quelque part étouffé dans l'œuf, parce que le primat qui était venu n'avait rien, n'avait aucune visée de ce genre. Aujourd'hui, je peux dire que tous les conflits et tous les contentieux entre l'État et l'Église, entre l'Église russe et nous-mêmes, ont été réglés définitivement. Je crois, et je le dis sans prétention, on peut dire tout ce qu'on veut sur le plan positif ou négatif de mon action, mais la seule action que je revendique, et je crois qu'il restera dans l'histoire, c'est que je suis parvenu à complètement détacher l'Église de toute revendication ethnique ou nationaliste ou philétiste. Ça c'est clair, ça s'est reconnu en Estonie, et notre Église, continuant sous cette voie-là, ne courra pas le risque d'être une Église nationale. Ça c'est un premier point, ça il faut bien qu'on le sache. Quand l'Église russe prétend que nous, n'est-ce pas, nous servons les intérêts ou je ne sais pas quoi, oui, quelque part, nous avons un devoir vis-à-vis de la nation estonienne, c'est évident. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi qui soit contre une nation, surtout quand elle se réorganise. Mais dire que nous sommes utilisés au même titre, ce n'est pas vrai. Notre Église aujourd'hui, je le répète, est parvenue à sortir de toutes ces tentacules qui étaient des tentations de nationalisme, de philétisme. Ça, c'est clair. Pour l'Église de Moscou, c'est, je pense, ses actions parlent d'elles-mêmes. Je dirais que simplement, sans passion et sans méchanceté, je crois qu'ils ont largement dépassé la limite du supportable. Et peut-être que l'histoire se retournera contre eux plus vite qu'ils ne l'imaginent. Il serait bien qu'ils retrouvent un peu de spiritualité et que leurs dirigeants pensent en termes d'Église et pas en termes d'autres termes. Voilà ce que je vais dire. Mais vraiment, ils ont dépassé les limites du supportable. Partout où ils sont, ils font des conflits. Où qu'ils soient, ils font des conflits uniquement pour le pouvoir. Mais parce qu'eux-mêmes ne génèrent pas ces conflits. Ils sont générés par le pouvoir civil et ils sont retransmis à travers l'Église. Et ça, c'est très dangereux. J'espère qu'ils sont assez humbles pour comprendre cela et qu'un jour, où ils retrouveront la voie évangélique, où je crois qu'ils vont au casse-pipe et ils iront au casse-pipe beaucoup plus tôt qu'ils ne l'imaginent. Ça, c'est mon sentiment. Excusez-moi de parler comme ça. Il n'y a aucune passion à ça. Il y a une immense tristesse dans mon cœur, une immense... Je ne peux pas le traduire. Nous avons eu dimanche passé le dimanche du pardon. Mon Dieu, mais comment c'eût été extraordinaire si on pouvait... J'ai proposé au métropolite Cornelius que nous fassions un acte public de pardon, que nous nous pardonnions mutuellement les uns les autres et que nous repartions d'un bon pied. Aucune réponse. Les miens se sont opposés. Les miens ont eu des réactions très dures à mon égard. Je leur ai dit, même... Ils m'ont dit, vous comprenez, c'est eux qui doivent demander pardon. Je dis, nous devons toujours demander pardon. Parce que quelque part, nous ne savons pas. Nous prions pour les fautes volontaires et involontaires. Nous en avons certainement fait dans notre histoire. Nous devons nous aussi demander pardon. Moi, je suis prêt. Le jour où il y aura ça, alors les choses seront différentes.
Monseigneur, que peut donner l'Église orthodoxe aux Estoniens en particulier et aux Européens en général ?
Je commencerai par ce fait très particulier. En 1918, Saint Platon avait déjà développé des relations exceptionnelles avec les Anglicans. Et les Anglicans le savent jusqu'à aujourd'hui. Saint Platon, qui est notre évêque martyr, avec ses deux compagnons, les prêtres Nicolas et Michel, qui sont à Tartu. Saint Michel, nous l'avons retrouvé complètement intact. Saint Nicolas, il a les mains qui bénissent et qui sont restées intactes. Et puis nous avons aussi d'autres saints, comme Saint Basile, qui est le saint des jeunes, etc. Mais c'est pour vous dire que déjà, notre Église a joué un certain rôle sur le plan œcuménique, puisque même aujourd'hui, encore les Anglicans se souviennent de ça. Je viens maintenant à la question essentielle. Je pense que le problème de l'Estonie comme de la Finlande, parce que nous sommes deux églises qui avons cette particularité que les orthodoxes n'ont pas, est excessivement précieux, non seulement pour nos pays, mais pour l'Europe elle-même. Et je vais m'expliquer. Nous avons quelque part deux Europes. Nous avons une Europe qui est née de la latinité de Rome et une Europe qui est née de Constantinople, de Byzance. Ces deux Europes, à travers l'histoire, ont fini par s'opposer l'une contre l'autre. Et même, je dirais que les croisades ont été celles qui ont été les causes qui ont fait que cette opposition s'est marquée comme cela. Au moment où l'Europe aujourd'hui s'unit, nous sommes devant cette réalité. Et je pense que dire qu'on va faire l'union de l'Europe sans faire l'union des Églises, ça, je pense que c'est un peu risqué. Je crois que nous avons quelque chose à faire. L'union de l'Europe ne peut passer, et ce n'est pas prétentieux, que par l'union des Églises, c'est-à-dire les retrouvailles de ces deux blocs qui ont malheureusement dans l'histoire évolué un peu dans des sens opposés. Or, à l'intérieur de ces deux blocs, il y a un petit groupe, les pays baltes et les pays qui vont jusqu'à la mer Noire, qui représentent une sorte de tierce Europe. Et dans cette tierce Europe, dans laquelle aujourd'hui nous sommes rentrés, puisque la Finlande, cette tierce Europe qui fait partie maintenant de l'Europe, parce que la Finlande et nous-mêmes, nous faisons partie de cette tierce Europe. Dans cette tierce Europe se trouvent deux petites églises orthodoxes, l'église orthodoxe de Finlande et l'église orthodoxe d'Estonie, lesquelles sont les seules églises qui ont été des petites églises à l'intérieur de grands empires, et elles ont été placées sous la dépendance de ces empires. Donc, je dirais que l'avantage de ces deux petites églises par rapport aux autres orthodoxes, c'est que aujourd'hui, nous avons une expérience de la pluralité que les grandes églises orthodoxes n'ont pas. Et nous avons un rôle particulier à jouer pour les églises orthodoxes, et aujourd'hui, elles rentrent avec leur pays dans l'Union européenne, qui reste simplement dans cette expérience du vécu de deux groupes qui s'opposent, alors que nous vivons à l'intérieur d'une réalité où nous avons toujours cherché, non pas à nous opposer, mais à partager cette pluralité. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que pour l'Europe aussi, nous avons certainement acquis des choses, mais en même temps, nous avons aussi à faire comprendre à cette Europe que l'orthodoxie n'est pas qu'orientale, que l'orthodoxie est là déjà une histoire occidentale. Donc, quoique petit, nous pouvons très humblement nous ouvrir dans les deux perspectives et couvrir un peu ce terrain qui, pour le moment, est indéfinissable, des relations entre ces deux Europes, l'une qui est la latine et l'autre qui est la byzantine. Voilà un peu, je crois, ce que nous pouvons faire, en commençant, bien sûr, à jouer ce rôle parmi nos peuples. Et je vais vous dire une chose. Bien sûr, nous, on a été très handicapés, parce que ce que moi, je considère comme criminel, c'est que à partir de 1963, surtout, le grand mot d'ordre qui était lancé, aussi bien par les luthériens que par les Russes en Estonie, c'était que l'orthodoxe est russe, l'estonien est luthérien. On a fait un clivage social, si bien que jusqu'à aujourd'hui encore, un Estonien devenait difficilement orthodoxe parce qu'il était obligé de se russifier. Et on a joué là-dessus. Ça, c'est criminel, vous comprenez. On a essayé de faire comprendre que pour être orthodoxe, il fallait être russe et rien d'autre. Pour être un bon luthérien, il fallait être estonien. Les deux ont joué le jeu. Et pour des raisons très politiques et pour des raisons de récupération de gens. Aujourd'hui, ça c'est perdu. Ou ça commence à changer. Par contre, en Finlande, je vais vous dire une chose, il est clair que l'influence spirituelle du sens de la résurrection, ce sont les orthodoxes qui l'ont apporté aux luthériens. Nous, aujourd'hui, en Estonie encore, le vendredi saint est férié, mais le jour de Pâques, tous les magasins sont ouverts. Et vous pouvez aller faire vos emplettes au supermarché le jour de Pâques. Ce qui est inimaginable même ici, en France, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pour vous dire comment une société est marquée par une emprise très forte. Or, aujourd'hui, chez les luthériens en Finlande, on chante le Christ est ressuscité des orthodoxes. Ça, c'est l'influence finlandaise dans la société finlandaise. Parce qu'il y a un acquis que le Finlandais peut être aussi bien orthodoxe que luthérien, même s'ils sont minoritaires. Donc, ce travail, nous avons à le faire. Et je pense que nous avons beaucoup à apporter, aussi bien à l'Europe que aux églises orthodoxes. Voilà un peu ce que je peux dire, et je le dis très modestement, mais je suis convaincu de cela.
Monseigneur, pouvez-vous nous dire comment votre Église mène sa mission au sein de la société ?
Je suis bien content que vous posiez cette question, parce que pour moi, c'est la question essentielle. Tout le reste, c'est la périphérie. Je suis là pour faire vivre une Église et pour aider une Église à se développer, et surtout pour témoigner du Christ, de sa résurrection, pour être un signe ou une référence d'espérance pour chaque homme. Et ça, je crois que c'est ça qui est fondamental. Tout le reste vient par la suite ou accompagne. Alors là, nous sommes évidemment placés devant des problèmes majeurs, parce que nous avons beaucoup de carences. D'abord, nous avons un des premiers problèmes à surmonter, c'est comment faire comprendre et comment faire participer tout le peuple de l'Église au travail missionnaire. Qu'est-ce qu'on avait jusqu'à présent ? Des prêtres qui vont, qui célèbrent la liturgie et qui ne font rien d'autre à côté. Et non seulement qui célèbrent la liturgie et qui font rien d'autre à côté, mais qui estiment que c'est les gens qui doivent venir, et non pas aller les chercher. Donc ça, c'est l'héritage du passé. Et c'est étonnant parce que maintenant, je fais faire des rapports aux prêtres. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. J'ai fait des rapports aux prêtres et à travers ces rapports, j'essaye d'abord de leur donner, de leur faire acquérir une vision missionnaire, c'est-à-dire de comprendre que l'Église doit dire quelque chose, doit faire quelque chose d'autre que simplement la célébration, parce que la célébration, elle a son prolongement. Et donc une célébration qui ne se prolonge pas dans la réalité du quotidien de la vie sociale, évidemment, elle n'est pas nulle. Je ne me dis pas ça. Mais est-ce qu'elle remplit pleinement sa véritable mission totale ? Et j'arrive à corriger certaines choses. Mais moi, au départ, je recevais simplement, j'ai célébré 150 liturgies, j'ai eu 10 communions à telle liturgie, 20 communions à telle liturgie, parce qu'évidemment, en plus, nous avons des héritages très lourds. Par exemple, on célèbre la liturgie. Si vous ne venez pas vous confesser pendant la liturgie, on ne vous communie pas, par exemple. Alors, c'est vrai qu'il y a des problèmes à ajuster. On ne peut pas non plus supprimer la confession, mais cela a des références et des résonances très encore blessantes. Parce que celui qui se confessait, il y a quelque temps encore, courait le risque de que son nom se retrouvait sous la table du commissaire du KGB. Et donc, c'est des choses terribles que ce peuple a vécues. Par conséquent, comment faire comprendre aux prêtres que cette liturgie, elle se prolonge, que cette liturgie se situe dans une vision eschatologique et pas simplement individualiste. Qu'est-ce que ça veut dire célébrer une liturgie eucharistique ? Qu'est-ce que ça veut dire la synaxe ? Quelle est la responsabilité du peuple ? Donc, le premier objectif que moi j'ai poursuivi et je poursuis, c'est de faire jouer ce fameux sacerdoce laïque des fidèles et de plus en plus impliqué dans la réalité du vécu de la vie de l'Église, l'élément laïque, là où il a sa place, évidemment. C'est comme ça, par exemple, que j'ai vraiment travaillé tout particulièrement les statuts de l'Église, notamment en ce qui concerne les élections des évêques du métropolitain, mais aussi des évêques diocésains, où vraiment ce sont les diocèses qui élisent leur évêque. Alors que le métropolitain, c'est l'Assemblée générale qui l'élit. Et moitié-moitié, moitié prêtre, moitié fidèle. Mais pour faire cela, il faut aussi être à la hauteur. Et donc aujourd'hui, il y a tout un travail qui se fait à la base pour impliquer de plus en plus les laïcs devant leurs responsabilités spirituelles, pastorales, missionnaires. Et nous avons un mouvement de laïcs pour lequel je n'ai pas parlé, qui se structure de plus en plus, et qui, de plus en plus, ces adolescents, ces jeunes qui sont là, on les fait travailler dans ce sens-là, pour leur faire découvrir leur pleine responsabilité. Ça, c'est le premier point, très important. Le deuxième point très important, évidemment, je l'ai dit et je le redis, c'était la formation du clergé. C'est comment donner aux prêtres la possibilité de pouvoir faire un sermon, par exemple, de pouvoir comprendre ce que c'est que faire un sermon, de sortir du ritualisme. Ce qui a tué et ce qui tue l'Église d'Estonie, c'est le ritualisme. Des gens qui célèbrent uniquement parce qu'ils ont, sans comprendre ce qu'ils font. Nous avons fait des éditions dans ce sens, où nous avons, par exemple, nous avons fait une édition complète de toute la Semaine Sainte, où vraiment nous essayons non seulement d'apporter des éléments pédagogiques, mais où nous guidons les prêtres pour leur faire redécouvrir les textes important qu'ils avaient laissé tomber parce que tout simplement ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc vous voyez qu'il y a ce travail qui se fait là, qui est très important. Deuxième chose, de la catéchèse au ras des pâquerettes. C'est-à-dire que nous éditons de plus en plus des éléments, des petits livres de catéchèse au ras des pâquerettes que nous distribuons gratuitement. C'est un très gros effort que nous faisons, mais j'ai constaté que énormément de familles lisent et prennent un plaisir fou à recevoir ces feuillets de catéchèse. Alors bien sûr, on en met en vente, mais quand moi je me balade de paroisse en paroisse, j'ai toujours un paquet de et alors nous les distribuons. De la même manière aussi, nous avons le journal d'information. Donc de la même manière aussi, nous avons le journal d'information, Métropolia, mais une partie est consacrée à la catéchèse, de manière à ce que les fidèles, alors, ont tous des problèmes de catéchèse. C'est de ce point de vue-là qu'on essaye d'améliorer le travail missionnaire. Voilà un peu actuellement où nous en sommes. Très primitif, très primaire. Et puis, un dernier point, partout, dès que je peux, je mets un prêtre permanent. Alors j'ai commencé à couvrir les îles, parce que sur les îles, nous avons beaucoup de paroisses, nous avons beaucoup d'îles du côté ouest. Alors systématiquement, je mets des prêtres permanents, de plus en plus. Et chaque fois que je mets un permanent, il y a quelque chose qui se passe. Voilà un peu la situation actuelle.